Bien, bonsoir à tous. Le livre qui nous réunit, Création plastique d'Haïti, art et culture visuelle en colonie et post-colonie, est un livre important. Et c'est pour cela que, bien qu'étant malade, j'ai tenu absolument à être quand même présent ce soir pour le présenter avec son auteur, Carlos Elius, dans cette maison d'Amérique latine qui accueille tous les pays d'Amérique latine, y compris, bien entendu, Haïti. Alors, je dis que c'est un livre important parce que Carlos Elius, qui est un chercheur déjà bien connu, je ne sais pas si je dois vous le présenter, directeur de recherche au CNRS, il a publié déjà plusieurs ouvrages notamment sur la culture haïtienne, bien entendu. Le premier que j'avais lu, c'est « Pensée plastique et énonciation identitaire », portait essentiellement sur l'émergence de ce phénomène tout à fait intéressant qu'est l'art naïf, entre guillemets. Il aura certainement tout à l'heure l'occasion de s'expliquer sur cet aspect-là également. L'art, cette émergence de l'art naïf dans les années 40 en Haïti. Il y aura un autre phénomène, peut-être de nature comparable, dont on parlera tout à l'heure, qui est la nouvelle émergence des Bisango aujourd'hui, une nouvelle production liées à l'art contemporain en Haïti également. Il y a là des phénomènes qui sont intéressants du point de vue de la sociologie de l'art, de comment se créent des mouvements artistiques, mais je n'anticipe pas là-dessus. Donc le premier livre de Carlos Elius est un livre sur l'émergence de l'art naïf en Haïti, ce qui lui permet de retracer à travers des recherches à la fois d'histoire, de sociologie et d'histoire de l'art, au sens propre du terme, l'émergence de ce phénomène. Création plastique d'Haïti, art et culture visuelle en colonie et post-colonie, vous le voyez immédiatement au titre, est un ouvrage infiniment plus ambitieux. Il ne s'agit pas seulement d'un processus, mais véritablement de l'ensemble du processus. Alors, rappelons ça les arts visuels, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'image, en Haïti, c'est-à-dire depuis que Saint-Domingue est une colonie, d'abord espagnole, puis passe à la France, au domaine colonial français, et à partir de 1804 devient un pays autonome. Il y a donc toute une série de situations politiques et culturelles qui vont influencer cette évolution de la création plastique, de la création visuelle en Haïti. Et c'est de cela que nous allons parler et avec Carlos Elius. Et peut-être que pour commencer, je voudrais qu'il nous resitue au fond l'extrême complexité de ce qui joue dans cette rencontre des cultures depuis l'époque caraïbe, ce qu'on appelle les Taïnos, dont on a eu il y a quelques années une très belle exposition à Paris, et puis les différents moments, les différentes influences qui vont jouer un rôle essentiel dans cette création plastique, à partir des populations africaines déportées en Haïti par la traite, des influences qui sont liées à la longue histoire de la religion chrétienne et singulièrement catholique en Haïti, qui apportent elles aussi toute une imagerie qui va jouer un rôle. Donc on a l'imagerie catholique, on a l'imagerie du vaudou, on a bien entendu toute l'imagerie qui va venir également avec le processus révolutionnaire, puisque Haïti, vous le savez, est à la fois, c'est un cas tout à fait, enfin, c'est le cas extrêmement intéressant d'un pays qui est la première république créée par des anciens esclaves après la libération de... Alors, vous vous souvenez, il y a un double processus, puisque la Révolution française avait aboli l'esclavage, que Napoléon le réinstalle, créant un mouvement de révolte en Haïti, qui, enfin à Saint-Domingue, à l'époque ce n'est pas Haïti, puisque Saint-Domingue ne prendra le nom de Haïti qu'en 1804, au moment de son autonomie, reprenant d'ailleurs précisément une appellation des Taïnos. Donc je pense que la première chose à faire pour nous éclairer sur les différents aspects qui sont développés dans ce livre, Carlos, ce serait de rappeler la variété de ces moments historiques et de ces influences où convergent sur la situation haïtienne différentes traditions visuelles qui seront ensuite à l'œuvre dans ce processus de création plastique.
Et merci Jacques, merci d'être venu en dépit de,
ouais, je suis désolé.
De la situation que vous confrontez. Je dois avant aussi remercier le service de presse des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme d'avoir organisé cette rencontre. Je vous remercie aussi d'être là pour échanger avec nous. Et donc, et la première chose aussi, il faut dire que Jacques suit mes travaux depuis un certain nombre de temps, donc il connaît bien mon parcours. Et merci donc pour cette présentation. Donc la première question, c'est la question des rencontres. Je partirai tout d'abord de ce que le discours sur l'art haïtien a établi d'abord, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi moi j'ai pris un autre point de départ. Bon, je ne vais pas reprendre toutes les théories qui ont été développées, je vais tout simplement dire qu'il y a eu deux discours. Un premier qui soutient qu'il y avait un vide artistique avant les années 40, un second qui a restitué l'histoire de la création plastique jusqu'à la période coloniale. Mais cette deuxième tendance s'est focalisée uniquement sur un type de création particulier, les beaux-arts. C'est-à-dire les formes de création qui ont été institutionnalisées en Europe à partir de la Renaissance et qui s'est retrouvée dans la colonie française de Saint-Domingue. Du coup, l'histoire de la création plastique, dans cette perspective, se limite à l'histoire du transfert des beaux-arts de Saint-Domingue à Haïti et ce qui en est devenu. Là, le problème se pose, puisque dans le discours même des beaux-arts, au XVIIIe siècle, les philosophes et tout le monde postulent que les autres populations n'ont pas d'art. C'est-à-dire... Les Africains qui ont été déportés, qui se retrouvent à Saint-Domingue en ayant un statut d'esclave, c'est des gens qui n'ont pas d'art. Bien évidemment, on discute de la situation des œuvres, on va dire, des Taïnos, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'art, tel qu'il est défini à l'époque, se réfère aux beaux-arts. C'est pour cela il m'a semblé important de m'interroger d'abord sur cette notion d'art, d'essayer de l'historiciser Et c'est ainsi que je me suis, j'ai trouvé intéressant de m'intéresser aux théories qui travaillent sur les images, sur les cultures visuelles, étant entendu que la culture visuelle, ça n'appartient pas à une communauté particulière. Et ensuite, les beaux-arts constituent une forme de production visuelle, comme toute autre production visuelle. Donc, si on part de cette première proposition, on voit très bien que, qu'il s'agisse des Taïnos, c'est-à-dire la population qui était là avant l'arrivée de Christophe Colomb, qu'il s'agisse des Africains qui ont été amenés sur place à titre d'esclaves, on peut dire que toutes ces populations-là ont une culture visuelle qui leur est propre. La question est de savoir, dans cette situation-là, quels sont les éléments de cette culture visuelle qu'on peut repérer dans la situation coloniale et qu'est-ce qui advient lorsque ces groupes sociaux fonctionnent dans cet espace colonial esclavagiste à travers leur culture visuelle. C'est ainsi que je me suis rendu compte que, en allant dans les détails, on voit très bien que chacun des groupes en présence la question du visuel est un enjeu pour chacun des groupes en présence, qu'il s'agisse des Africains dits esclaves, des colons, etc., etc. Donc, du coup, la porte est ouverte pour étudier ce qui advient en situation coloniale en termes d'une culture visuelle qui se constitue à partir des différents apports des différents groupes en présence. Donc, on voit très bien qu'on n'est plus dans une simple histoire du transfert des beaux-arts et de son devenir. Donc voilà le point de départ. Ça me permet donc d'essayer de voir quels sont les éléments de la culture visuelle des Taïnos qui sont là. Quels sont les éléments de la culture visuelle des Africains qui sont là. Quels sont les éléments de la culture visuelle européenne qui sont là. Et maintenant, d'évaluer tout ça et de voir qu'est-ce qu'il y a de bien. Et là, je pense que ce point de départ-là justifie le fait que je parle de la création, enfin de l'art et de la culture visuelle en situation coloniale, puis maintenant en situation post-coloniale, parce que ce point de départ a une influence considérable sur la manière dont la culture visuelle va se constituer, se développer en Haïti par la suite.
Alors, je voudrais, par rapport à cette première réponse, souligner une caractéristique. Bon, c'est peut-être inutile de souligner qu'un chercheur est quelqu'un qui confronte des idées, qui les évalue et qui éventuellement, au terme de cette confrontation et de cette évaluation, énonce sa propre position. Mais Carlos Sellius fait ça de manière extrêmement systématique, extrêmement intéressante. C'est-à-dire que son livre a une dimension pédagogique au sens où aucune affirmation n'est simplement lancée comme ça. Il y a un examen des différentes thèses, il l'a rappelé tout à l'heure, un examen des différentes thèses qui existent sur telle ou telle question, que ce soit les Taïnos, la responsabilité coloniale, le rôle de l'Église, etc., etc. Et l'ensemble des thèses qui sont discutées est posée, critiquée, opposée à d'autres thèses, et finalement, l'auteur prend position. C'est une démarche intellectuelle absolument classique, c'est même la démarche qui devrait en permanence être la démarche intellectuelle, mais elle prend une forme, une espèce de clarté dans le travail de Carlo, et je voulais lui rendre cet hommage. C'est un travail qui permet au lecteur qui n'est pas nécessairement très au courant de l'ensemble des complexités qui forment l'histoire de Haïti et l'histoire des des images ou des arts visuels en Haïti, ça lui permet de se repérer. Et notamment, on va tout de suite arriver à une question, puisque avec cette multiplicité d'influences et de rencontres, va s'imposer la question de savoir si nous pensons cette rencontre sous le terme de créolisation. Le terme de créolisation, vous savez qu'il y a un long débat autour de la notion de créole, créolité, créolisation, et la manière de l'aborder de Carlo est précisément de mettre à l'épreuve de chacune de ces circonstances les différents phénomènes qui entrent en jeu. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment vous voyez la chose, en rappelant peut-être à nos auditeurs de ce soir que la situation de Haïti est intéressante, en particulier parce que la question de la créolisation est doublée d'un débat sur créolisation ou créolité et bossalité. Qu'est-ce que c'est que le bossal ? Le bossal, c'est l'Africain qui a été arraché à sa terre, mais qui arrive à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Domingue, au moment même où la révolte des esclaves va engager le processus révolutionnaire et l'indépendance. Et par conséquent, il va y avoir une créolisation, il existe une créolisation ancienne de tous les Africains qui, pendant des siècles, 17e, 18e siècle, ont vécu avec des Espagnols, avec des Français, et un échange culturel s'est produit pendant cette longue période. Et puis, il y a ces jeunes esclaves qui arrivent au moment de l'indépendance. Et du coup, les chercheurs, je pense évidemment à Gérard Barthélémy, mais enfin, les chercheurs historiens sur Haïti distinguent la situation de Haïti précisément par l'existence, au moment où l'indépendance est décrétée, de cette population qui n'avait pas encore pris l'habitude de vivre avec une culture de type occidental, qu'elle soit espagnole ou française. Et ces esclaves arrivés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on les appelle des bossales. Et donc, il se pose en Haïti une question qui ne se pose pas de la même façon dans les autres pays comme le Brésil ou Cuba, du fait de ce processus révolutionnaire et de l'indépendance qui intervient et qui va créer des conditions d'existence de ces Africains arrivés en Haïti singulières par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc peut-être, Carlo, vous pourriez nous expliquer ce phénomène et dans quelle mesure il est important pour comprendre l'évolution de la culture en Haïti.
Oui, j'avoue que je ne m'attendais pas à cette question aussitôt. pour une raison très simple, c'est que je me suis gardé de convoquer la théorie ou les théories de la colonisation pour analyser la période coloniale, alors que c'est là précisément, en ce qui concerne Haïti, que cette théorisation aurait eu son importance. Pourquoi je l'ai évacué ? Je l'ai évacué parce que, pour moi, cette théorisation-là, n'est pas absolument nécessaire pour aborder la question telle que je l'ai abordé. Pourquoi encore ? Parce que cette question pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et évidemment, dans l'espace francophone, on se met sous le parapluie du grand glissant pour penser la colonisation, sans se rendre compte que, premièrement, Glissant arrive très tard dans cette affaire. Deuxièmement, la théorisation chez Glissant n'est pas tout à fait claire. En réalité, cette question se pose depuis les années 50 dans l'espace Caraïbe. Ça a commencé à Mouna, en Jamaïque, dans les années 50, avec des linguistes, etc. etc. La problématique de la créolisation se met en place depuis les années 50 et ça a évolué, etc. etc. On y retrouve...
Mais le mot existe depuis le XVIe siècle.
Oh, oui, bien évidemment, j'y arrive. Et ça, c'est... on va dire au 19e siècle de préférence. Enfin, j'y arrive. Donc, c'est... Parce qu'en fait, en réalité, on aurait pu prendre toute la soirée pour parler de la créolisation. D'autant plus que c'est un axe de mes recherches. J'ai organisé un colloque là-dessus à Montréal il y a longtemps, etc. etc. Bon. Alors, en ce qui concerne Haïti, donc... J'en parle dans le livre, pour être plus court, j'en parle dans le livre, dans le dernier chapitre, où j'aborde, l'avant-dernier chapitre, où j'aborde la question de la reconfiguration du monde artistique haïtien. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a des chercheurs qui utilisent cette notion-là pour qualifier ce qui est advenu en Haïti au XXe siècle. Pour les uns, peut être qualifié d'art créole, l'art que l'on appelle l'art naïf, etc., parce qu'on a une difficulté avec cette notion de naïf. Et pour d'autres, c'est le contraire. On doit utiliser cette notion-là pour qualifier les artistes dits modernes, parce que c'est eux qui auraient entrepris une forme d'appropriation qui relèverait de cette problématique de la créolisation. Bien évidemment, lorsqu'on regarde très bien chez chacun de ces auteurs-là, on regarde la force de leur proposition théorique, leurs références, les discussions qu'ils font de ces notions, à la vérité, on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu pour une raison très simple. Vous voyez que je vous dis que pour tel chercheur, c'est telle catégorie d'artistes qui relève de la créolité ou de la créolisation. Pour tel autre, c'est telle catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, ces auteurs-là reconduisent une problématique centrale dans les études sur Haïti, c'est la théorie de Haïti, le dualisme méthodologique. Or, la théorie de la créolisation, en tout cas telle que cette théorie a été débattue en anthropologie, etc., etc., c'était d'essayer de dépasser le dualisme méthodologique introduit notamment par l'anthropologie afro-américaniste. Or, on voit bien l'impasse épistémologique, dans la mesure où on ne perçoit pas, dans cette théorie-là, on ne perçoit pas que la question de la créolisation doit être posée en termes de données anthropologiques globales capables d'analyser le processus, les dynamiques que ces sociétés-là ont prises pour donner... il y a un processus qui donne un résultat X, mais pas deux éléments qui sont en conflit. Donc, dans ces approches-là, on ne conçoit pas la créolisation comme un processus anthropologique global. La preuve, c'est que ces théories-là, appliquées à l'art, ne sont pas formulées uniquement par des chercheurs qui travaillent sur l'art, on le retrouve dans les approches qui parlent de la sociologie, de l'histoire. On a cité Gérard Barthélémy, justement, c'est celui avec Jean Casimir, qui sont, on va dire, c'est les deux derniers qui posent la question du dualisme et méthodologique de manière, dans sa formulation la plus extrême au XXe siècle, mais cette formulation-là parcourt toute l'histoire de la pensée haïtienne depuis le XIXe siècle. Or, moi, je ne suis pas dans cette perspective-là du dualisme méthodologique. Au contraire, je pense que le dualisme pose beaucoup de problèmes et ne permet pas de voir notamment les transversalités, les dynamiques de création. Par contre, si on veut prendre, dans ma perspective, qui est une perspective de, comment dire, d'analyse globale des choses qui se mettent en place, on pourrait prendre l'approche, disons, de la créolisation. Mais là encore, j'ai une objection. L'objection, c'est quoi? C'est que, pour moi, il y a une idéologie créole qui est et demeure une idéologie coloniale. Cette idéologie est à l'œuvre à Saint-Domingue, en Haïti, et il me semble que sur le plan idéologique, l'invention même de la nation haïtienne renvoie cette idéologie, dépasse cette idéologie-là. Parce que, avec l'indépendance, on a renommé la société et on n'utilise plus les catégories créole-bossale pour désigner, par exemple, tel groupe social, etc., etc. Créole et bossale deviennent des notions qui identifient des qualités, des aspects de la société, etc. Contrairement à ce qui se passe maintenant, par exemple, je ne sais pas, dans le mouvement de la créolité, qui identifie, qui propose la notion de créole comme identification englobante d'une communauté, eh bien, ce n'est pas le cas à partir de l'indépendance d'Haïti. La notion de créole, les notions de créole et de bossale ne sont pas utilisées comme notions qui englobent, qui définit une identité dans la société. C'est-à-dire que l'identification englobante de la société haïtienne est donnée par l'identification politique, c'est-à-dire le fait de nommer une nation qui s'appelle Haïti. Donc du coup, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais pour vous dire que ce que je perçois comme impasse épistémologique dans l'usage de cette notion-là, que j'ai évité d'appliquer sans filet, sans discussion, etc. Et je l'ai réservé donc pour l'avant-dernier chapitre, pour dire que les personnes qui utilisent ces notions-là, à mon avis, ne sont pas parvenues à me convaincre. Pourquoi cette question du dualisme est importante? Parce que c'est au cœur même du discours sur l'art haïtien. Naïf moderne. Naïf non moderne, c'est une dichotomie qui colle parfaitement, hein, à cette approche qui veut que Haïti est coupé en deux. Ville-campagne, créole-français, élite-masse, etc. Mais dès lors qu'on prend les éléments dans leur finesse, on se rend compte que ça ne marche pas. Un exemple central dans mon livre. La question de la culture visuelle montre très bien qu'il y a des images qui circulent dans la société depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien dire de manière horizontale et de manière verticale, c'est-à-dire ça traverse toutes les couches de la société et depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, les formes d'appropriation montrent qu'il y a des différences, etc. Et c'est là, et la chose devient intéressante parce que tel groupe social s'approprie la même image et investit cette image de sens différents. Et c'est là qu'on va avoir des conflits au niveau des classes, etc., etc. L'idée n'est pas de dire, par exemple, bon, si je prends le schéma de Barthélémy, il vous dit que, bon, créole-bossale, on a deux groupes qui sont en conflit, et il dit que avec ces groupes-là, on a comme une situation de fixité, c'est-à-dire que les groupes se retranchent, dans leur propre logique, et puis il n'y a pas de rencontre possible et il n'y a pas de création possible. Ce qui est assez incompréhensible pour une société comme Haïti. En tout cas, pour la création plastique. Et pourtant, il a donné un texte, hein, pour appliquer son modèle, son schéma théorique pour expliquer. Mais ça ne marche pas. Donc, comment faire avec les images de saints catholiques que l'on retrouve, par exemple, chez le bourgeois de Montagne Noire, et de même dans tous les bidonvilles de Port-au-Prince, ou bien, dans une région assez reculée de la campagne, à travers le vaudou ou autre chose. Alors, comment on fait avec cet élément transversal? Comment on fait? Donc, ça remet en question le schéma, parce que moi, je ne peux pas l'appliquer. Parce que ça ne me permet pas de comprendre ce qui se passe avec cet élément-là, qui est fondamental, parce qu'on va le retrouver au cœur même comme référent plastique fondamental pour les artistes d'aujourd'hui, quelle que soit la tendance. Et c'est d'autant plus fondamental que ça a une portée politique extraordinaire. Parce que, comme je l'ai étudié dans un chapitre du livre qui s'appelle l'histoire d'un conflit iconique, cette imagerie-là, j'ai pris l'exemple canonique de 1758 avec l'affaire Macandal qui est un esclave, qui n'est plus esclave parce qu'il est parti marron, et on rapporte que Macandal a voulu empoisonner tout le monde, etc., etc. Mais en fait, moi, lorsque je vais dans les textes, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas seulement une question de poison, mais Macandal a été aussi condamné pour superstition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh bien, on décrit dans les textes juridiques ce que l'on entend par cela. Eh bien, on dit que Macandal composait un paquet, et ce paquet-là serait le vecteur du poison. Alors, ce paquet, c'était quoi? C'était un objet avec un contenu que les colons n'arrivaient pas bien à saisir et qui était ficelé. Au-dessus de ça, il y avait un crucifix, etc. Ils mettaient de l'encens, etc. Donc, ça veut dire qu'il y avait ce mélange de trucs, on va dire, pour les colons de l'époque, du catholicisme qui était considéré comme saint, avec ce qu'ils appellent à l'époque de la superstition. Donc cela était condamnable. Et c'est clairement dit et c'est débattu dans les textes juridiques, au point où ça va avoir des conséquences sur des questions relatives à la médecine traditionnelle dans la colonie, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce phénomène-là va donner lieu à la production de tout un ensemble de lois. Et ces lois-là vont perdurer en Haïti. On va retrouver ça dans l'histoire du droit pénal haïtien. Et jusqu'aux années 40 et même, et ça a encore perduré. Et c'est sur la base de cette loi que l'Église catholique va continuer à combattre la superstition en Haïti, c'est-à-dire on va mener des campagnes dites anti-superstitieuses contre le vaudou. Mais figurez-vous, le prêtre arrive dans un onfort ou bien chez quelqu'un, il voit une image de saint catholique. Il voit que le prêtre se trouve dans l'obligation de déchirer cette image catholique parce que cette image est censée, par exemple, je ne sais pas si c'est une image de la Vierge, ça doit être Esprit de Frida ou Esprit d'Antor, etc. Donc, d'où ce que j'appelle le conflit iconique en Haïti. On va voir, par exemple, dans des chapelles ou dans des églises, des tableaux qui sont là, par exemple depuis la période coloniale, eh bien, le clergé est obligé de prendre des dispositions, y compris pour déplacer ces objets, pour les détruire, pour les renvoyer en France ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y aurait une dévotion qui ne serait pas dogmatique, une dévotion qui ne serait pas conforme à ce que l'Église... Alors là, voilà un clergé qui se retrouve dans un petit soulier, parce que c'est son propre espace qui est envahi. Hein? Donc, il est obligé à chaque fois de vouloir faire le nettoyage. Mais ce nettoyage ne pourra jamais être fait. Donc, et c'est dans cette situation conflictuelle même que l'imagerie catholique s'installe dans la culture visuelle de l'ensemble de la population pour devenir un élément fondamental.
Et donc, est-ce qu'on pourrait dire quand même que ce moment où précisément des images liées à la magie et au vaudou qui s'articulent aux images ou créent un syncrétisme avec les images du catholicisme, c'est ce qui va faire que un artiste comme Hippolyte, par exemple, va se trouver promener, ou des tableaux vont se trouver promenés dans une procession, créant précisément cette articulation d'où il... Alors, l'Église n'arrive pas à se sortir, parce que précisément, ces catégories ne correspondent pas, ou n'arrivent pas à poser la magie, le vaudou, dans une situation claire, puisque la pratique les mélange et les articule radicalement.
Oui, en fait, il y a une chose au préalable, il faut dire, c'est que, en fait, la question du visuel est une question fondamentale pour le régime colonial, parce qu'il s'agit justement de dépouiller l'autre, hein, de tout ce qu'il pouvait avoir comme culture visuelle. C'est comme si on voulait tout simplement le transformer. On ouvre la tête et on met quelque chose. Mais justement, ce ne sont pas des tonneaux vides. Parce que c'est des gens qui avaient une culture visuelle préalable. Et c'est à l'aide des coordonnées de cette culture visuelle que ces objets-là vont être réinvestis, resémantisés, etc. D'où maintenant la lutte qui s'installe entre justement le colon et, on va dire, que et l'esclave. C'est-à-dire que il y a tout un ensemble d'éléments symboliques qui font comprendre que on n'était jamais parvenu à prendre le corps de l'esclave comme on voulait le prendre, le transformer en objet. C'est-à-dire il y a on va dire l'agentivité, hein, qui joue là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que pour le cas d'Hippolyte, ça rentre justement dans cette histoire de conflit iconique. Nous sommes en 1946, décembre 45, janvier 46. Hector Hippolyte est déjà... Ah, ben, c'est l'occasion de faire une petite publicité, parce que y a une personne qui va être contente là. Hein? Bon, alors, je voulais vous faire la surprise de vous présenter mon prochain livre. C'est une monographie sur Hector Hippolyte. Bon, quelques petits problèmes ont fait que on n'a pas pu faire ça, mais ça va arriver bientôt, mais pas aujourd'hui. Hein, donc ça sera une autre occasion. Alors, donc il y a cette monographie sur Hector Hippolyte, on va dire la première, parce que c'est le peintre le plus célèbre d'Haïti, mais il n'avait pas encore sa monographie. Et donc, Hector Hippolyte, qui va être découvert rapidement, et le peintre le plus célèbre parce que c'est autour de cette figure qu'on va construire un élément qui serait caractéristique de l'art dit haïtien, c'est-à-dire l'idée d'un artiste nécessairement ongan ou bien qui sert les lois et qui peint en état de possession. D'où une œuvre qui serait une œuvre, on va dire, étant donné que c'est une œuvre dictée par les lois, on va dire que c'est même une auto-célébration des esprits, n'est-ce pas? Donc, bon, bien évidemment, tout cela participe d'un certain primitivisme qui a été projeté sur la société et qui a donné un certain nombre de résultats. Bon, bref, revenons à ce tableau. Et alors, ce qui se passe, c'est que le directeur du centre rapporte que il a envoyé un tableau, hein, chez l'encadreur, et quelques jours après, les gens au centre entendent une sorte de vacarme.
Peut-être faut-il quand même rappeler ce qu'est le centre et le rôle de Gomessy, créé comme voilà, comme créateur.
Et vous voyez comment c'est difficile, parce qu'à chaque fois qu'on prend un point, il faut encore.
Oui, mais la lecture de ce livre n'est pas facile.
Alors là, sans ça, c'est une mauvaise publicité.
Je ne suis pas là pour faire simplement de la pub. Je suis là pour faire ressortir que ce livre est absolument fondamental et très intéressant, mais il n'est pas facile, parce que précisément tout est emmêlé.
Oui, il faut pas trop temps.
Et que là, je pense qu'il faut,
oui,
rappeler.
En fait, d'abord, la stratégie, c'est que on va laisser un certain nombre de choses, et pour que les gens réagissent, parce qu'il faut leur donner de la matière, de gré à mot, comme ça, et ils vont poser des questions, et puis on va enchaîner, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, je suppose. Bon, parfait. Alors, rapidement, le Centre d'art, c'est un lieu qui est créé en 1944 par un artiste états-unien, Derrick Peters, qui est devenu en Haïti à titre de professeur d'anglais. Donc, il va rencontrer un groupe d'intellectuels dit de la mouvance indigéniste, je préfère parler de la modernité indigène, qui avait créé un mouvement dans les années 30, dans la continuité d'un courant littéraire qui a pris naissance dans les années 20, etc. Bon, bref, on crée cet établissement, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'on va dans les archives du Centre d'art, on se rend compte que, bon, une fois l'idée du centre, une fois que cette idée circulait, mais il y a des gens qui savaient faire quelque chose, etc., qui prenaient contact avec le centre. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un, Philomé Aubin, qui peignait, qui était dans le Nord, au Cap-Haïtien, qui peignait, lui il est né en 1891, il peignait depuis 1904. Donc 40 ans, c'est-à-dire 1904, et le centre est créé en 1944. Donc il envoie un tableau pour faire savoir ce qu'il savait faire, pour voir si il pouvait, par exemple, se consacrer à l'art, étant entendu qu'il pratiquait cette chose, bon, sans en tirer bénéfice, on va dire, financier, économique. Bon. Donc, et il se trouve que un monsieur va venir de Cuba. Oui, il faut que je dise que bon, le centre reçoit le tableau de Philomé Aubin, mais considère que ce tableau c'est l'œuvre d'un apprenti artiste et que bon, on achète le tableau mais on le met là parce que ce type-là a besoin encore de se former, etc., etc. Parce que la vision, le projet du centre, c'était justement d'être une école, de faire en sorte que tous les gens qui y passent arrivent à maîtriser, disons, les codes des beaux-arts, les courants artistiques de partout, etc., pour produire un art qui prétendait s'inscrire dans la modernité, dans les grands courants de la modernité, etc. Bon, alors, mais dans cette même perspective, il y avait une politique qui consistait à faire venir des artistes d'ailleurs, des courants artistiques, etc. Bon, et par toutes sortes pour toutes sortes de raisons, il va y avoir une exposition d'art cubain à Port-au-Prince. Et l'expo avait été montré à New York au MoMA, etc., etc. Bon, alors, les artistes cubains arrivent, le commissaire de l'exposition, José Gomez Sicré, va visiter les réserves du centre. Hein. Et c'est ainsi qu'il découvre le tableau de Philomé Aubin. Et donc, là, il va faire quelque chose que je qualifie comme l'énonciation d'un jugement esthétique valorisant. Et pourquoi? Parce que au centre, l'œuvre arrive, les gens, pour eux, c'est pas de l'art, hein. Mais lui, il s'y crée, très imbu du développement de l'art dit naïf ailleurs, de la promotion des formes de création dites populaires en Amérique latine qu'il promeut aussi lui, etc., etc., dit attention, ça c'est de l'art. C'est-à-dire, il dit que ce tableau-là, c'est un type de création particulier qui peut avoir un statut d'œuvre d'art et qu'on peut valoriser en tant que tel. Bien évidemment, il s'agit d'un courant spécifique et il argumente pour dire, mais écoutez, cela se rencontre un peu partout, etc., etc. Donc, d'autres personnes qui se faisaient connaître au centre, etc., vont être finalement intégrées dans ce qui va devenir ce mouvement, etc. C'est ainsi que, il va y avoir une exposition à La Havane, c'est cette exposition-là consacrée à ces artistes, contrairement à ce qui avait été prévu auparavant, c'est cette exposition-là qui va lancer le mouvement dit naïf en Haïti. Donc, après l'exposition de La Havane, qui s'est tenue, si j'ai bonne mémoire, je crois en avril 45, et après cette exposition qui, dit-on, a eu un succès fou, j'ai pas encore pu recevoir, étudier la réception critique à La Havane de cette exposition, mais enfin, en tout cas, ça a lancé le mouvement. Et donc, évidemment, l'équipe du centre n'était pas unanimement d'accord avec tout ça. Il y a eu des discussions, des conflits, etc., etc. Ça a pris du temps à être accepté. Mais quoi qu'il en soit, dans cette dynamique-là, le directeur du centre se rappelle d'une chose. Il venait du Cap, il avait fait escale à Montrouille, il avait vu les décors d'un bar à Montrouille, donc anonyme, etc. En fait, moi je pense que ce qui s'est passé va remettre en mémoire ce qu'il avait vu, parce que pour lui, il n'était pas encore dans cette dynamique-là, il avait complètement oublié. Donc, et c'est ainsi qu'il il demande à un écrivain haïtien, Philippe Tommy Marcelin, qui faisait partie de l'équipe du centre, et qui allait en vacances à Saint-Ma, et lui dire, écoute, j'avais vu ce truc-là à Montrouille, essaye de voir si tu peux retrouver le bonhomme. Il semble qu'il a quelconque talent, etc. Bon, si je vous raconte tout ça, vous n'allez pas lire la monographie de Victor Hugo, n'est-ce pas? Bon, heureusement, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, parce que je vois qu'il y a l'éditrice qui me fait signe, là, qui me dit...
Je vais vous interrompre, car...
Non, j'arrive à cette... Jacques... moi, je n'étais pas embarqué là-dedans.
Est embarqué dans beaucoup de choses.
Ah ben oui, bon.
Je voudrais, à propos du centre, parce que c'est important, il y a une thématique, comment se crée à un moment donné.
C'est ça. Bon,
c'est quelque chose que vous avez développé plus dans votre livre précédent que dans celui-là, mais ça fait rien. On peut quand même en parler.
Oui,
cette convergence à un moment donné du primitivisme, du surréalisme, de cette production subalterne, etc. Tout ça va créer un mouvement qui va être pris en charge par le centre, qui va amener à une commercialisation, qui va conduire à une identification de l'art en Haïti à ce type de production que Gomez-Sicré avait tout d'un coup identifié. Mm-hmm. Donc là, il y a là un phénomène extrêmement important, intéressant, et on va peut-être faire un saut sur la fin. Puis on vient.
Non, mais on n'a pas parlé du tableau d'Hector Hippolyte. Il y a avec la foule.
Deux minutes.
Non, bien évidemment, l'éditrice n'est pas d'accord, mais en fait, deux mots. on a retrouvé le bonhomme, etc. Breton va le propulser, etc., etc. Et il deviendra l'artiste le plus célèbre. Bon, bref. Alors, je disais que Eric Peter était au centre d'art et on entend vraiment une clameur. C'est ainsi que les gens sont sortis pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et ils ont vu que les personnes qui étaient chargées de ramener le tableau de chez l'encadreur portent le tableau vraiment en haut comme ça et il y a une foule qui suit en procession derrière le tableau. Phénomène extraordinaire, n'est-ce pas? Et bon, alors là, je vous laisse là sur votre faim, parce qu'il va falloir lire. Bon, bien évidemment, j'en parle un tout petit peu dans ce livre-là, mais j'ai vraiment développé ça. Bon, c'est le contexte, on va dire, par exemple, bon, les années 40, où, bien évidemment, il faut dire que le tableau représentait la Vierge Marie, etc. Ça fait écho à une ambiance religieuse très forte à l'époque. On est au début des années 40, où le culte marial prend une dimension très forte après que le pays a été consacré à la Vierge en 1942. Quelques années après un miracle qui aurait été produit à la fin du 19e siècle, la Vierge aurait interrompu. La Vierge aurait interrompu le déploiement de la petite vérole qui décimait la population d'Haïti. Bon, bref, on était dans un contexte religieux, etc., et qui fait que ce tableau a été pris en possession. Mais la difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on célébrait dans ce tableau? Le problème, c'est que je n'ai pas de description de cette foule pour savoir qui était là-dedans. Est-ce qu'on célébrait Ergely Danton, Ergely Frieda, ou bien Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou, etc. Mais lorsqu'on place ça dans la longue durée du conflit iconique, on comprend très bien que, comme dit Bryce Mars, on n'arrive pas à démêler les dévotions, quoi. On n'arrive pas à les démêler. D'ailleurs, c'est ce qui est l'objet même du problème posé à cette situation au clergé catholique, quoi. Bon, voilà.
Non, mais Hippolyte était ongan et il était un prêtre.
Là, Jacques, je pense que vous avancez. Est-ce qu'il a été ongan? Ça, il faut aller lire mon livre, parce que pour vous mettre, comment dire, en appétit. Il me semble que il faut analyser le discours d'Hector Hippolyte pour savoir s'il a été ongan ou pas. Mais où trouver...
J'attends de recevoir le livre. Mais on va pas passer à cette question de la présence des traditions orales, religieuses et qui vont s'inscrire dans les ces écritures sacrées qui font partie de cette construction mi-catholique, mi-baudou et spécifiquement haïtienne.
Oui, il y a deux choses dans la question. Il y a les traditions orales et ensuite l'imagerie qui circule, n'est-ce pas? Je me suis retrouvé face à un vrai problème qui relève d'une discussion interne à l'histoire de l'art, le statut du discours pour analyser les images. Il y a des courants formalistes qui prône une approche qui doit restituer davantage la pensée de l'image plutôt que d'interpréter l'image à partir du texte, ce qui a fait beaucoup de débats au niveau de l'iconologie qui analysait les images à travers les textes sacrés, etc. Bon, pas que, mais enfin. Et donc, il y a ce problème-là au niveau de l'histoire de l'art, mais il m'a semblé que cette question, telle qu'elle est posée dans certains courants de l'histoire de l'art, évacue beaucoup de choses, parce qu'il y a tellement d'évidence de l'usage, non pas uniquement des textes écrits, mais aussi de l'oralité, dans le contexte de production matérielle de l'objet artistique, n'est-ce pas? Qui alimente les thématiques, toutes sortes de choses. Donc, alors, en Haïti, il me semble que c'est très difficile de ne pas prendre en compte comme ressource comme source et ressource, hein, des artistes, non seulement les images pour les analyses, comment dire, des référents iconographiques, mais aussi les sources et les ressources orales, ou plus particulièrement ce que les spécialistes de littérature appellent l'oraliture haïtienne. C'est-à-dire les contes, les proverbes, toutes sortes de choses, etc. Et il me semble que c'est là, on peut revenir à Hippolyte, parce que eh ben justement, Hippolyte a énoncé un récit, n'est-ce pas, qui est devenu une sorte de récit autobiographique, et c'est sur la base de ce récit qu'il va être valorisé. Et qu'il va se retrouver aussi en difficulté parce que il va essayer de se défaire de ce discours. Or, il se trouve que l'œuvre est contrainte, l'œuvre plastique est contrainte aussi bien par le récit, mais aussi par cette manière dont il avait d'essayer de se désidentifier de ce qu'il avait énoncé auparavant. Par exemple, il dit qu'il est Ongan, n'est-ce pas, de père en fils, etc. Et c'est ce qui va faire, c'est pour ça que Breton va l'adopter, parce que bon, il dit qu'il perd un état de possession, mais alors le surréalisme et la médiumnité, n'est-ce pas, les vases communicants. Donc, voilà que lorsqu'on va un peu plus loin dans l'affaire, on pourrait se rendre compte que on est peut-être dans des stratégies rhétoriques visant à satisfaire un horizon d'attente pour essayer l'expression que Mathilde aime bien, d'enfiler la vie d'artiste, n'est-ce pas, hein? Et j'ai une anecdote. Elle est succulente, celle-là. Bon, c'est ce que j'appelle l'affaire Cléopha. Est-ce qu'on la donne? Mathilde, est-ce qu'on la donne, l'affaire Cléopha? Bon, elle a approuvé. Hein? Bon, alors. Et l'affaire Cléopha, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai lu dans le journal de terrain de Michel Léris, qui était en Haïti en 1948. Michel Léris rapporte qu'il est allé à l'atelier d'une artiste peintre haïtienne bien connue, Le Sturnier. Et là, il rencontre un jeune peintre tout à fait nègre, dit-il. Je n'invente rien. Tout à fait nègre. Bon, comme quoi, en Haïti, il faut bien distinguer ce qui est nègre de ce qui n'est pas nègre. Bon. Alors, bon, on est en 1948, tout à fait nègre. Et ce bonhomme raconte que Hector Hippolyte s'amusait à raconter une chose, que il pouvait boire par ses oreilles un litre, voire 2 litres de rhum. L'affaire est sérieuse. Bon, maintenant, lorsque je vais dans le texte de Toby Maslin, qui a restitué sa rencontre avec Hector Hippolyte, la version est plus complète, moins truquée, et ensuite plus intéressante. Alors, Hector Hippolyte raconte à son ami, son nouvel ami, l'écrivain Philippe Toby Marcelin, que un jour, il est là et il avait un ami. C'est un monsieur c'est quelqu'un qui était le compagnon d'une personne qui était à son service, sa bonne, donc. Et ce monsieur s'appelle Cléopha. Eh bien, Cléopha, un jour, est possédé par un roi qui s'appelle Bosutwakon. Et Hippolyte dit, un jour, Cléopha appelle la dame et lui dit d'amener une bouteille de rhum. Et Hippolyte, lui, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en réalité, c'est le roi qui agissait. Et il a fait venir Hector Hippolyte. Il a fait boire à l'oreille droite une bonne quantité de rhum. Et attention, Et toi, il précise, c'est pas duo, c'est duo homme barman con et pas du toit étoile. C'est-à-dire, c'est duo homme tout bon, comme il a dit. Hein. Il a dit vraiment bah, extraordinaire, je pense. Et puis, l'autre oreille a bu, etc. Je me souviens, Lucas ou je sais pas quoi. Et après, Cléophas lui a donné du café, machin, etc. Et puis, bon, il a dormi, machin, etc. Et toi, Hippolyte raconte que depuis ce jour-là, il ne boit plus d'alcool. Bon, je vois des gens qui vont dire que c'est un remède de ce type qu'on devrait m'administrer, mais enfin... Un mal de calot. L'affaire n'est pas terminée. C'est que l'interlocuteur de d'Hippolyte répond à oui et non et toi Hippolyte dit à son ami mais chef en fait directeur je vais vous dire quelque chose est-ce que vous êtes d'accord ou vous ne devez pas vous fâcher et Toby Massa dit non mais écoute pourquoi eh bien, c'est un remède de ce type-là qu'on devrait vous administrer. Oh, oh, ça te passe. Eh bien, c'est que Hector Hippolyte a constaté que son interlocuteur buvait beaucoup. Et buvait trop. Bon, en fait, lorsqu'on regarde ça, et que l'on compare avec et la manière dont l'affaire circule, ouais, ok, il était, on va dire, bon, enfin, c'est... Vraiment, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui faisait machin, etc. Mais en fait, prenons au sérieux cette affaire-là, sur la base de la réaction de Toby Mars. Là. En fait, on n'est pas dans quelque chose que Hector Hippolyte a vraiment vécu. On est dans une parabole. Il utilise les éléments de sa culture de référence pour essayer de dire à son interlocuteur, selon une stratégie, on va dire, indirecte, voilà ce que je constate que vous avez comme problème. Moi, attention, est-ce que il ne serait pas bien de traiter ce problème? Mais il ne l'a pas dit directement, il l'a dit indirectement, en utilisant une stratégie rhétorique issue de sa culture de référence. Bon, alors lorsqu'on analyse cela, on voit très bien que en plaçant cette séquence dans l'économie interne de l'ensemble de la discussion avec Toby Marcelin, il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Hector Hippolyte se met essaye de se mettre au même niveau que son interlocuteur. Il essaye de faire valoir ses compétences rhétoriques, etc., etc., etc. Et à partir de cette séquence, de l'analyse de cette séquence, on analyse l'ensemble du texte pour se rendre compte que finalement, on est dans la construction d'une fiction. On est dans la construction d'une fiction qui a pris l'allure d'une fiction mystique et qui va être la donnée centrale du devenir peintre Hector Hippolyte. Mais de même qu'il utilise cette stratégie rhétorique de cette manière-là, il va essayer de s'en défaire lorsque cette stratégie rhétorique n'est plus utile pour justifier qu'il soit devenu peintre et qu'il peigne, etc., etc. Donc, je vous laisse vraiment sur cet élément-là, parce qu'on doit passer à autre chose. C'est une manière de vous dire qu'il va falloir lire la monographie consacrée.
Tout le monde a compris. Peut-être encore deux minutes avant de donner la parole au public. Dans la suite de ces réflexions Carlo vient de faire sur les stratégies rhétoriques, les stratégies, etc. Je voudrais, Carlo, que vous reveniez très rapidement sur la production des bisongos, c'est-à-dire sur... Bon, je vous laisse expliquer.
Oui, mais deux minutes. Non, 2 minutes, c'est pas possible. C'est encore très compliqué. Et là encore, on retrouve la question de la stratégie rhétorique.
Oui, c'est pour ça que.
Oui, voilà, c'est lié.
On boucle là-dessus.
Oui, bien sûr. En fait, pour vous dire ça rapidement, c'est une série d'objets qui sont apparus comme par enchantement dans l'espace de la création de plastique, dans l'espace visuel en Haïti, disons à partir des années 90, etc. Bon, tout ça vient. Les discours qui circulent disent, bon, c'est des objets qui appartiennent à des sociétés secrètes, donc des bisongos, et que ces objets-là ont échappé, on va dire, à l'ethnographie, et ont échappé aussi aux autodafés, etc.
Mais n'ont pas échappé à une dame qui les collectionne.
Voilà, c'est ça.
Qui s'appelle Madame Lehmann.
Madame Lehmann, c'est ça.
Et qui va les exposer.
Oui, elle a collectionné un ensemble de pièces, beaucoup. Le problème, comme l'appétit vient en mangeant, elle commence à collecter une pièce, on lui apporte deux, on lui apporte trois, on lui apporte plusieurs, beaucoup même. 300 ont été exposés à Genève et a fait le tour du monde, et ensuite il y en avait encore à la maison, etc. Donc, bien évidemment, il y a toute une fondation qui est créée autour de cette collection pour essayer de produire un discours sur ça. Et donc, les bisongos ont pris la rue. Parce que là, c'est des trucs de société secrète. Nous voilà donc, ils sont plus secrets. La question, moi, la première fois que j'ai été confronté à ces objets qui ont une force plastique extraordinaire, et bon, par défaut, parce que bon, on est toujours en mode recherche, n'est-ce pas? Je me suis dit, si effectivement ces objets existaient avant, par exemple, les années 40, ça remet en question toute notre manière de concevoir le paysage de la création plastique haïtienne et surtout la plastique proprement vaudou. Parce qu'il va falloir reconsidérer un certain nombre de choses. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, voilà le point de départ de ma petite enquête sur ces objets. Bon, j'ai rencontré des gens, etc. J'ai même rencontré un antiquaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire un jeune monsieur qui m'a expliqué qu'en fait, il parcourait le pays pour aller chercher ces objets et les ramener à Marianne Lehmann, etc. Mais entre-temps, les objets ont débordé le cadre de Marianne Lehmann parce que des galeries s'en mêlent, des musées en veulent et des collectionneurs aussi. À ce moment-là, le marché s'emballe, on va dire presque. Intéressant. Alors, je me suis mis à étudier le discours de Marianne Lehmann, l'iconographie de ses objets. J'ai essayé de rencontrer le plus de monde possible, mais il n'y a pas que moi, parce qu'il y a des gens qui vont se mencher là-dessus, parce que, par exemple, le musée du Cameroun, il y en a acheté un. Donc, du coup, la personne, André Delpiège, qui a été l'acquéreur à l'époque lorsqu'il travaillait au musée, va aussi se pencher sur l'histoire de son objet avec une anthropologue, Catherine Benoît, etc. Bon, pour faire court, parce que c'est très difficile de faire court, pour garder ma logique ou bien ma cohérence de départ entre la question du discours et de l'objet plastique, lorsque j'analyse le discours de Marianne Lehmann, elle explique comment, une fois, elle travaillait par exemple à l'ambassade de Suisse à l'époque, Et une fois, elle sortait, etc., il y a un monsieur qui est venu lui proposer un objet. Et elle s'intéressait déjà à des antiquités, etc., etc. Mais ce qui est différent, c'est que ce qui l'a convaincu, Marianne Lehmann, c'est de voir que c'est des objets qui, premièrement, sacrés, donc elle qualifie déjà l'objet de sacré, et qui va se retrouver en circulation, alors que c'est des objets qui ne devraient pas circuler. Étant entendu qu'il s'agit d'objets. Bon, alors l'argument, il faudrait vraiment, vraiment l'analyser de manière rhétorique, c'est que la personne qui vend cet objet, c'est parce que un Ougan a décidé de vendre parce que ce Ougan avait des difficultés d'argent pour pouvoir acheter des médicaments, etc., etc. Bon, intéressant. Mais le problème, c'est que à chaque fois, on amène des objets à Marianne avec un discours circonstancié. C'est-à-dire, il faut dire ce que c'est. Il faut l'identifier. Il faut dire dans quelles circonstances c'est sorti, etc. De telle sorte que on a tout un bain discursif, hein, qui enveloppe les objets, etc., etc. Et lorsqu'on analyse très bien, si on met ça dans la longue durée, on se rend compte que de même qu'il y avait un discours, un jugement esthétique valorisant sur l'œuvre de Philomé Aubin qui a donné naissance à ce courant, si on analyse ça, on voit Hector Hippolyte, il y avait un discours qui a été émis, etc., etc. C'est comme si, bon, on prend Tiga, on prend, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a un discours qui est émis. Il y a une qualification de ce discours et ça suscite l'émergence d'une variété d'objets. Hein? Ben, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un élément central, je vais dire, dans la dynamique de création en Haïti au XXe siècle. Donc, dès lors que, pour moi, c'est des objets des années 90 à aujourd'hui, j'inscris cette dynamique, ces objets-là, dans ce que j'appelle la nouvelle scène. Je ne parle pas d'art contemporain pour toutes sortes de raisons. Donc, j'inscris ça dans la dynamique sociopolitique qui a rendu possible toute une nouvelle forme de création, au point où ces objets-là vont, je l'ai dit dans le texte, dans le livre, je n'oublie pas que je dois vous faire acheter le livre. Donc, alors, parce que sinon, Monsieur Galerin qui est là va me tirer les oreilles. Oui, donc, alors, et c'est que l'apparition de ces objets vont avoir un impact sur d'autres artistes qui ne travaillent pas dans cette dynamique-là. Au point où je parle d'un courant que j'appellerais Bizango. Mais bien évidemment, pas dans le sens d'objets rituels et sacrés, etc., parce que je les ai déjà désacralisés. Bien évidemment, c'est un anathème, parce que les gens qui défendent ça ne sont pas d'accord. Bien évidemment, c'est bien de ne pas être d'accord. Au contraire, c'est ça qui fait avancer les choses, parce que j'ai constaté l'objection que j'ai par rapport à cette fondation, qui a existé depuis un certain temps autour de ces objets. Cette fondation a accompagné des expositions ici et là dans les grands musées en Europe, mais le discours produit ne se fonde pas sur une ethnographie dense pour me convaincre du contraire. Hein? Donc j'attends encore qu'on me donne des arguments contre mes arguments. À ce moment-là, si je suis encore en vie, je les réviserai.
La parole est à la salle.
Non,
il y a des micros qui peuvent circuler. Il y a encore beaucoup de questions, évidemment, à poser.
Bonjour, et merci Carlo pour votre exposé. Moi, ma question, c'est par rapport à la créolité. Qui a un peu cette dualité sur l'identité et tout. Il y a Lewis qui a exposé dans le dernier article et sur cette question, où il a montré que Haïti a fait beaucoup, a plutôt choisi le pari de l'haïtianité en termes de discours sur l'identité nationale face à la créolité. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est surtout le discours sur la créolité, c'est aussi un discours où on peut le dire, même si ce n'est pas du tout revendiqué en Haïti, un discours un peu décolonial, parce que Haïti, c'est l'un des rares pays qui a pu, après l'indépendance, retourner vers la source des premières civilisations dans cet espace Amérique, surtout sous le nom Haïti, et il n'y a pas d'autres pays qui le font. Donc, le discours sur la haïtianité face à la créolité, on peut le dire, c'est un discours qui n'est pas du tout dans une sorte de temporalité duale entre colonisation et post-colonie, mais qui va beaucoup plus loin, qui prend l'ensemble de ce qui pourrait exister sur cet espace-là, à la fois le temps avant la colonisation et après la colonisation. Donc, quand je regarde le titre, même si tu dis que tu n'es pas du tout dans cette question de dualité, comme une critique face à Barthélemy et Casimir, quand je regarde le titre du livre, je ne l'ai pas encore lu, ben je vois qu'il y a colonie et post-colonie. Est-ce que ce n'est pas une référence à la dualité alors que tu dis que tu es hors de cette dualité, même si tu ne revendiques pas une laïcité comme positionnement?
Je ne vais pas... de façon, sur ce plan-là, au moins, je suis d'accord avec mon ami Léris, je n'ai pas dit le contraire lorsque j'ai dit qu'il y a l'instauration d'une référence identitaire englobante, donc l'haïtianité, qui a rendu possible l'évacuation du débat tel qu'il s'est développé, aux Antilles, dans les Antilles françaises, n'est-ce pas? Et colonie et post-colonie, je ne vois pas la dualité, parce qu'on peut prendre ces deux notions en termes de temporalité. On a été une colonie, n'est-ce pas? On a fait l'indépendance. Et l'intérêt de la notion de post-colonie, j'ai dit, parce que j'ai dit bien dans le livre qu'il n'y a pas une ou des théories post-coloniales, la première chose. La deuxième chose, il ne s'agit pas pour moi de m'installer ou bien de faire allégeance à tel courant ou à tel autre. Et la question, c'est de voir les différents problèmes qui ont été soulevés et voir comment, qu'est-ce que je peux en tirer pour mon propre objet. Et du coup, je ne pars pas dans des considérations qui ne seraient pas en rapport avec mon objet. Haïti, oui, a fait la révolution. Après la révolution, on est dans une situation post-coloniale et post-esclavagiste. Je ne vois pas en quoi ça réintroduirait une dualité dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire de penser la société en termes de deux entités qui seraient spécifiques et qui seraient en conflit. Parce que déjà, ces notions-là sont des notions beaucoup plus englobantes, n'est-ce pas, et qui renvoient à des temporalités et à des questionnements de type épistémologique.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci Carlo de ton exposé très lumineux. Et je vais commencer ma question par une citation d'Albert Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».
Bien sûr.
Alors, dans ton exposé, tu as utilisé les trois catégories conceptuelles, art, culture visuelle, création plastique. Et en parlant des premiers habitants de l'île, les Taïnos, tu as parlé de culture visuelle, etc. Est-ce que ces différentes catégories conceptuelles sont utilisées pour démarquer, alors, les deux premiers, création et culture visuelle et création plastique, est-ce que c'est utilisé pour écarter et par rapport à la société, à la première société, aux premières sociétés établies sur la terre d'Haïti, qui étaient des sociétés holistes, par rapport à à une société haïtienne actuelle qui devient beaucoup plus individualiste, et parce que l'art, là, la notion de l'art qui a pris naissance et à la Renaissance, c'est une c'est un concept, ou du moins c'est une notion qui apporte avec elle la question de l'individu, puisque et à cette époque-là, on revendiquait la question de la propriété intellectuelle. Donc, est-ce que faut-il nommer la création plastique des premières sociétés haïtiennes art, ou du moins création plastique, ou du moins parler de tout simplement culture visuelle, donc dans une perspective anthropologique. Merci.
Intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça va l'inciter à lire le livre. La Renaissance n'a pas inventé la notion d'art. La Renaissance, comme je l'ai expliqué, à partir de la Renaissance, il va se constituer quelque chose. Il va se développer une réorganisation des formes de création qui existaient. Et cette réorganisation va aboutir à une notion qui est les beaux-arts. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les discours qui se sont développés dans le cadre du système institutionnel des beaux-arts vont produire une synonymie entre la notion d'art et de beaux-arts. Donc, toute la notion d'art que nous recevons jusqu'à présent est issue de cette construction synonymique. De telle sorte que toute la conception que nous avons de l'art, beaux-arts, participe de l'ensemble de ce discours. Or, puisque moi, je réfléchis en historicisant cette notion-là, je postule la nécessité justement d'éviter de projeter toutes les catégories des beaux-arts sur toute forme de création plastique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que je prends toujours la précaution de citer les médiévistes, notamment de l'école des hautes études en sciences sociales, et d'autres ailleurs, en Allemagne, en Belting, etc., qui préfèrent parler d'image avant l'époque de l'art, entendez, avant le règne des beaux-arts. Bon, cela dit, si je m'en tiens à cette notion d'art, je me retrouve dans une difficulté particulière. Laquelle ? C'est la hiérarchisation et la classification et la hiérarchisation proposées dans le cadre des beaux-arts. Parce que les sociétés européennes, dans leur dynamique d'expansion, vont décider que toute forme de création retrouvée ailleurs ne participe pas de la notion d'art. D'ailleurs, ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas de civilisation, etc. Alors qu'il s'agit de projeter une catégorie construite chez eux dans le cadre d'un processus d'institutionnalisation sur les autres. La question est de savoir comment aborder la forme d'institutionnalisation qui se sont développées ailleurs. Du coup, je me dis que une fois qu'on a fait ce geste d'historicisation, comment s'en sortir ? Eh bien, moi je dis que les beaux-arts constituent un domaine particulier de création plastique comme d'autres domaines de création plastique qu'on peut retrouver ailleurs. Et cet domaine de création plastique, c'est comme on peut les retrouver ailleurs, de même on peut retrouver plusieurs domaines de création plastique dans une même société. D'où ma notion de pluralité de perception. C'est pour ça que je peux mettre sur le même pied d'égalité l'histoire des beaux-arts en Haïti et l'histoire de la création plastique pour nous. Parce qu'il s'agit là de deux formes qui se sont développées, bien évidemment avec des interrelations, etc., etc. Et c'est pour ça que je parle aussi de configuration et de reconfiguration. La manière dont ces deux domaines, par exemple, ont évolué dans le temps, définit une configuration. La manière dont ça va se développer par la suite, par exemple au XXe siècle, ça produit une reconfiguration, c'est-à-dire les relations entre les domaines deviennent vraiment différentes. Alors les domaines, puisque je parlais tout à l'heure de la culture visuelle, en prenant l'image par exemple dans sa définition la plus simple, n'est-ce pas ? Une culture visuelle, c'est quelque chose de, on va dire, pluriel, de, etc. Pour moi, les domaines de création, y compris les beaux-arts, constituent des foyers de production d'images. Donc, la question c'est, lorsqu'on prend cela comme ça, il s'agit de savoir, lorsque un domaine de création est institutionnalisé, qui l'institutionnalise ? Et donc pour quelles raisons ? Dans quelles conditions ? Et comment on valorise cela dans la société et par rapport à d'autres sociétés ? Donc, je ne suis plus dans cette question de l'individualisme, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est là dans le développement des beaux-arts, dans le cadre du système capitaliste, on va dire, dans la manière dont c'est constitué, se sont constituées et se structurer les formes de société du système capitaliste. C'est-à-dire que l'histoire des beaux-arts est liée aussi à cela, parce que en fait, ça a commencé à partir de la Renaissance. Donc, ma préoccupation, c'est de le dire, attention, il y a l'hégémonie des beaux-arts. Il y a une manière de considérer toute forme de création à partir des grilles des beaux-arts. Comment est-il possible de voir les choses autrement, étant entendu qu'il s'agit d'une forme d'organisation de la création plastique, institutionnalisée à un moment donné, et qui a servi à une projection sur l'autre. C'est à partir des beaux-arts qu'on décide que tel type de création, c'est de l'art naïf, c'est de l'art primitif, ou c'est du monde-art. Donc, dès lors qu'on se débarrasse de cela, en tout cas, on historicise et on essaye justement de ne pas projeter toutes les catégories, il est possible de voir les différentes formes d'organisation de la création plastique, des productions d'images, etc. etc. La question qu'il faut se poser, dans quelles conditions les beaux-arts sont advenus, se sont développés, et quels sont les usages qui ont été faits au cours de l'expansion européenne sur le monde.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour votre présence.